Nous sommes étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée Nature de La Roche-sur-Yon. Nous souhaitons défendre une petite espèce de crapaud peu connue, la défendre contre la dégradation des dunes et redécouvrir ses collines de sable à travers les yeux du pélobate cultripède.
Sous le sable, à l'abri des tempêtes, sous une couette minérale, le pélobate attend. Attend que le temps soit plus confortable. Il rêve d'un temps plus délectable. Avec lui reviendront les douces sonates du petit pélobate évoquant la douce saison.
La dune est une butte, une colline de sable. Elle est façonnée par le vent et s'étend le long de la côte. Les dunes littorales sont celles que l'on retrouve sur les plages et elles sont séparées en plusieurs parties. La dune possède plusieurs stades de développement, tout commence avec l'apparition de végétation sur la laisse de mer. Cette végétation va retenir le sable transporté par le vent. C'est donc la formation de la dune embryonnaire. Ce procédé va donc se répéter jusqu'à l'apparition de la dune blanche, le second stade de développement de la dune. Ses principales caractéristiques sont une végétation foisonnante et typique de cette dune qui laisse toutefois entrevoir le sable. Vient ensuite le dernier stade de développement de la dune grise. La végétation y est abondante et recouvre la quasi-totalité du sable. Si on se penche sur la réserve de la casse de la Belle Henriette, en Vendée, dans le Marais Poitevin, nous trouvons ces fameuses dunes grises menacées par les espèces exotiques envahissantes et l'étalement urbain. C'est l'habitat de notre muse du jour, j'ai nommé le pélobate cultripède.
En effet, la dune grise possède une importance non négligeable. La végétation qui s'y développe a un rôle fixateur pour empêcher le sable d'envahir d'autres milieux. C'est notamment grâce à cette dune grise et sa végétation que le Marais Poitevin peut se retrouver près du littoral. Cela fait de ce site si particulier un lieu entre terre et mer et entre deux zones protégées. En effet, d'un côté, on retrouve le littoral vendéen et de l'autre, le parc naturel du Marais Poitevin. La réserve de la casse de la Belle Henriette et ses alentours vont donc être un havre de paix pour plusieurs espèces marines et venant des marais. Certaines de ces espèces, que l'on peut retrouver, sont notamment menacées et peuvent être très rares. Parmi elles, on peut citer le hibou des marais, la loutre d'Europe, mais aussi le pélobate cutripède. Ce petit crapaud aux yeux globuleux, protégé et rare en Vendée, s'enfuit dans la dune pour se réfugier en journée. La perte d'un sol sableux risque donc de le faire disparaître définitivement du département. Mais avant tout, savez-vous qu'est-ce qu'un pélobate cutripède ?
Le pélobate cultripède, un nom étrange en effet. C'est un petit amphibien qui vaut pourtant la peine d'être connu. Il a comme surnom le crapaud à couteau, notamment à cause de sa principale caractéristique, une lame cornée sur chacune de ses pattes postérieures. Cela lui sert à s'enfouir dans le sol sableux qu'il apprécie tant afin de se protéger, à la fois des prédateurs mais aussi des aléas climatiques. Et oui, nous ne sommes pas les seuls à craindre la chaleur. Ils émettent un chant caractéristique, une sorte de bruit étouffé ressemblant au caquettement d'une poule.
Comme tout amphibien présent en France, le pélobate est vulnérable à de nombreuses menaces, et c'est souvent à cause de nous. Tout a commencé il y a plusieurs dizaines d'années, quand l'homme a introduit volontairement ou involontairement des espèces exotiques. Celles-ci se sont reproduites et sont encore présentes aujourd'hui, comme l'élante, qui est une plante toxique et invasive. Qu'elles soient animales ou végétales, ces espèces peuvent détruire les sites de reproduction et plus généralement menacer l'équilibre écologique du pélobate. Ce n'est pas forcément ce qui nous vient tout de suite, et pourtant c'est le secteur qui menace le plus notre biodiversité. Je parle bien sûr de l'agriculture intensive. J'ai bien dit intensive. La pollution de l'eau, les pesticides, le drainage des zones humides ou encore la fermeture des milieux. Tout cela va au fur et à mesure du temps entraîner une diminution des populations de notre cher crapaud. Plus de 1,1 degré depuis 1800. Oui, le réchauffement climatique existe et il perturbe notre amphibien. Les sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes et virulentes menacent la disponibilité et la pérennité de ces habitats. Au-delà de la fragmentation des habitats, les routes constituent une menace non négligeable. En effet, lorsqu'il se déplace, il peut malheureusement se faire écraser par des chauffeurs négligents. Aïe, notre pélobate est touché par le chrysidiomycète, un mot bien compliqué à dire, qui est un champignon qui peut affecter la peau des amphibiens et entraîner des problèmes respiratoires. Cela va le conduire à une mort certaine, et c'est ainsi que nous avons perdu des milliers d'amphibiens à travers le monde. Enfin, nous allons vous parler de la menace qui est la plus dangereuse pour le pélobate. C'est la fermeture des milieux. Causée par l'implantation et le développement de la végétation, la fermeture concerne l'habitat majeur de notre pélobate, qui est la dune grise. Celle-ci a besoin d'être entretenue afin qu'elle ne se referme pas. Nous allons maintenant vous partager l'interview de Sylvain Huneau afin qu'il nous éclaire autour des problématiques sur la réserve de la case de la Belle Henriette.
Quel rôle joue la réserve de la case de la Belle Henriette sur le territoire ?
Alors, la réserve a vocation de protéger les habitats naturels et les espèces naturelles, qu'elles soient végétales ou animales, sur les 337 hectares de la lagune de la Belle Henriette.
Pour vous, à quel point les dunes sont fondamentales ?
Les systèmes dunaires, en fait, sont quand même très particuliers, très fragiles. Ils ont besoin d'évoluer librement, d'évoluer naturellement. Essayer de les corseter, essayer de les empêcher d'évoluer, c'est assurément une stratégie qui est vouée à l'échec. Alors dans certains secteurs, il n'y a pas le choix, dans les secteurs urbanisés, dans les secteurs très fréquentés, où de toute façon le bâti, l'habitat, l'urbanisme fait que les systèmes dunaires sont coincés, là il n'y a pas le choix. Mais dans des secteurs comme celui de la Belle Henriette, où là on est dans une grande naturalité, on peut laisser évoluer naturellement les systèmes dunaires. Et c'est dans ces cas-là qu'on se rend compte de leur grande richesse d'un point de vue biodiversité, mais aussi de leur extrême capacité à se régénérer. On a des secteurs en forte érosion qui, 3 ou 4 ans après, sont en accrétion avec des augmentations de hauteur de 2 à 3 mètres sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Et donc la reconstruction dunaire spontanée, naturelle, sur la Belle Henriette, c'est un très bon exemple. Ça marche très bien. Quand la nature, elle sait ce qu'elle a à faire, elle le fait très bien. La protection du pélobate cultripète sur la réserve naturelle, ça a été un des enjeux dès la création de la réserve. Il se trouve que moi-même, au début des années 2000, je travaillais déjà sur la conservation du pélobate cultripède plus de 10 ans avant la création de la réserve. Donc, quand celle-ci a été créée en 2011, tout de suite, on savait déjà ce qu'on avait à faire. Les choses se sont un petit peu compliquées en 2014, quand la lagune s'est reconnectée à l'océan. Là, d'un seul coup, une immense lagune d'eau douce, super favorable au pélobate cultripède, est devenue salée, et donc plus du tout favorable. Et les milieux qui avaient été urbanisés, anthropisés dans les années 60, 70, 80, ils n'étaient plus évidemment plus favorables. Et les milieux doux de la lagune ne l'étaient plus. Donc il a fallu rapidement travailler sur tous les secteurs de la réserve qui sont protégés de l'influence marine. Et c'est ce qu'on a fait en priorité.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote vécue à propos du pélobate ?
Quand on a commencé le travail sur le pélobate avec le CNRS, et les réserves nationales de Yves et les réserves nationales de Moise-Oléron, qui sont toutes les deux également gérées par la LPO France, on a installé des transpondeurs donc dans des pélobates pour faire ce qu'on appelle de la CMR, de la capture, marquage, recapture. Ça nous permet ça de déterminer avec précision quel est le pourcentage de mâles et de femelles, quelles sont les tailles de population. Quand on tag comme ça un pélobate, on a évidemment un numéro de tag, mais pour l'analyse statistique, on s'amuse à leur donner des noms, des prénoms. Donc ça m'a beaucoup amusé quand dans les premiers prénoms, il y avait celui de ma femme et de mes enfants. Voilà, c'est la petite anecdote, voilà, qu'on a retrouvé par la suite. Donc c'était très rigolo. Voilà.
Comme nous avons pu le voir, le pélobate subit de multiples pressions, ce qui mène à son classement comme espèce protégée et sur liste rouge. Nous pouvons tous contribuer à la protection du pélobate cultripède, que ce soit à notre échelle personnelle, en faisant attention à ses usages, à la dune et son importance, ou en se renseignant sur l'espèce et en rejoignant des associations qui nous permettraient d'agir. À notre échelle, nous avons eu la chance de pouvoir être à la tête d'un projet de réhabilitation d'une parcelle de la réserve naturelle nationale de la Belle Henriette en dune grise, à la Tranche-sur-Mer, afin de favoriser le développement du pélobate cultripède. Nous espérons retrouver des populations assez conséquentes de ce petit crapaud dans un futur plus ou moins proche.
Nous vous remercions avant tout d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous espérons sincèrement que ce podcast vous a plu. De plus, nous remercions Sylvain Huneau qui nous a guidés et aidés durant la totalité de ce projet. Nous remercions également nos professeurs.